Chapitre 50. Ils avaient agi dans l'urgence. Grâce aux informations récupérées sur le portable de Mayer lors de la garde à vue, marque, modèle, numéro de ligne, les techniciens avaient pu se brancher sans mal sur l'application de localisation de l'appareil. Selon toute vraisemblance, le système de traçage avait volontairement été activé un quart d'heure avant l'appel passé à Charcot. Le clan de vampires utilisait le téléphone de Mayer pour les attirer. Il leur donnait rendez-vous. BRI en tête, quatre voitures de police fonçaient plein pot vers Carrières-sur-Seine, à quelques kilomètres seulement du siège de la direction centrale de la police de Nanterre. Le signal fixe émettait depuis le nord-ouest de la ville, au bord de champs, là où avaient été exploités par le passé des champignonnières. Aujourd'hui, il restait des kilomètres de galeries souterraines à l'abandon. Nicolas regardait la route à l'arrière du véhicule conduit par Charcot. Les hurlements, les lieux souterrains vers lesquels il se dirigeait, la souffrance perçue au téléphone, c'était comme un cycle qui recommençait, la pression de tenir en équilibre sur un anneau de Möbius et de revenir en permanence au point de départ. 2 ans plus tôt, il avait foncé dans ces mêmes voitures, s'était dirigé vers le même genre d'endroit sordide, avec au bout du tunnel, l'amour de sa vie crucifié, la poitrine entaillée. Dans l'obscurité de l'habitacle, il déploya devant lui ses deux mains et les observa en silence. Ces mains-là allaient coincer ses malades, les empêcher de nuire de nouveau. Nicolas y mettrait toutes ses tripes. Il releva les yeux et fixa Charcot dans le rétroviseur. « Comment ils ont eu ton numéro de portable personnel ?» Par l'intermédiaire du miroir, les deux yeux noirs de Franck plongèrent dans les siens.
« Qu'est-ce que j'en sais ?»
Réponse froide, de circonstance. Nicolas préféra ne pas creuser le sujet. Charcot était sur les nerfs depuis quelques jours. Bélanger le sentait bien. Il plaqua son front contre la vitre en direction des bandes blanches mordues par la nuit. Quant à Lucie, elle lança un bref coup d'œil vers son homme, elle non plus ne comprenait pas. Mais Charcot fixa la route sans lui accorder le moindre regard, les doigts crispés sur le volant. Quelque chose qui allait bien au-delà de leur découverte là-bas le tracassait. Les véhicules stoppèrent à 200 mètres du signal, derrière la façade en tôle d'un entrepôt désaffecté. Un vent frais jaillissait des champs, faisait vibrer la tôle et figeait les visages. Lucie remonta la fermeture de son blouson jusqu'au cou. Une fois les coffres ouverts, on distribua les torches, on vérifia les protections et donna les dernières instructions. Une colonne d'hommes armés jusqu'aux dents s'engagea entre les bâtiments, direction les reliefs d'une carrière en friche d'où provenait le signal. L'équipe manien fermait la marche. Gestes précis, roulement de bras, feulement des semelles sur la craie. La masse noire du groupe progressait en silence, jusqu'à tomber sur le téléphone, posé bien en évidence contre une brique, aux abords d'un goulot sombre et encombré d'ordures. L'entrée de la champignonnière.
On y va.
La multiplication des galeries incita les hommes à se disperser. Ils gardèrent le contact par radio. Le groupe manien se scinda lui-même en deux. Lucie, Franck et Nicolas restèrent ensemble, armes au poing. De l'eau suintait du plafond. À travers les faisceaux des lampes, les gouttes roulaient, grises et sombres, chargées de matières organiques. Les grosses arches en pierre donnaient l'impression qu'elles pouvaient s'écrouler à tout moment. Ils progressèrent encore, les uns derrière les autres, affrontant les odeurs d'urine et de détritus. Des seringues, des bouteilles d'alcool vide, de vieux journaux s'entassaient. Des tags révélaient des croix gammées, des gueules de monstres, des sigles tribaux. Pas un centimètre de ces tunnels qui ne fût exploré, squatté, malgré les panneaux d'interdiction. Envie de tranquillité, de frayeur, de se droguer, ou juste d'être à l'abri. Lucie savait qu'il n'était pas sur le territoire des vampires, mais dans un endroit neutre, où on leur avait donné rendez-vous. Un lieu de rencontre avec la mort. Et la mort arriva par les cris des hommes de la BRI. Franck, Lucie et Nicolas se guidèrent au son puis aux lueurs qui palpitaient dans la pupille noire d'une niche au plafond arrondi loin dans les galeries. Les collègues ressortirent, armes à la main, visage fermé.
« C'est pour vous ce qu'il y a là-dedans »,
annonça le chef de groupe de la BRI.
« Nous, on explore les couloirs voisins, au cas où. »
Les regards qu'ils échangèrent avec leurs collègues surentraînés en dirent long. En s'approchant, Lucie eut les narines agressées.
« On dirait
de la javel, »
répliqua Charcot. Ils pénétrèrent sous l'arche et restèrent figés d'effroi. Mélanie Mayer pendait au bout d'une corde, nue, bâillonnée, les mains attachées dans le dos, dans une lente rotation sur elle-même. Une main devant le nez, Charcot éclaira avec sa torche. Les mollets, les cuisses, l'abdomen, les avant-bras, les seins. Il n'y avait pas un endroit sur le corps de Mayer où l'on pouvait poser un doigt sans toucher une morsure. Partout, des rangées de dents avaient profondément entaillé la chair. On l'avait mordue jusqu'à ce qu'elle en meure, et jusqu'à la dernière goutte de sang. Le faisceau descendit encore et dévoila une flaque au sol, mélange d'hémoglobine et de liquide translucide. Charcot avait la sensation de se trouver dans la gorge humide du diable. Il revint vers le corps. Sous la lumière crue, en y regardant bien, Mayer luisait. On l'avait arrosé d'eau de javel. Derrière, tandis que le reste de l'équipe arrivait, Nicolas fixa le corps sans bouger, la bouche mi-ouverte. Magnin observa le triste spectacle et s'approcha, soucieux de ne pas contaminer la scène de crime. Son pinceau de lumière accrocha des inscriptions sur le mur de gauche où était noté, selon toute vraisemblance avec du sang et en lettres capitales, « Les rivières coulent et pourrissent le monde. » Charcot lorgna vers Nicolas qui se redressait avec difficulté, semblant courbaturé de partout. Magnin restait immobile devant le corps qui continuait à tourner au ralenti dans un léger grincement de corde. Il l'immobilisa et éclaira les lèvres ensanglantées.
« On dirait qu'elle a quelque chose dans la bouche. »
Il plissa les yeux pour mieux voir, plongea les mains dans ses poches, se tourna vers son équipe.
« Quelqu'un a une paire de gants ?»
Jacques l'entendit une. Après l'avoir enfilée, Magnin revint auprès du cadavre, écarta les lèvres et glissa deux doigts dans la bouche. Il sortit entre son index et son majeur un petit rectangle cartonné plié en deux. Il le consulta avec attention, puis se tourna vers Charcot.
« C'est ta carte de visite ? »